C'est un rêve. Voilà ce qu'Achille Müller, âgé de 101 ans, a déclaré au moment de sauter en parachute le 21 mai dernier à La Sclaverie dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, vous avez bien entendu, 101 ans. Alors bien sûr, cet homme n'est pas un seigneur lambda. Ancien colonel, il est titulaire de la Grand Croix de la Légion d'honneur et a, entre autres, participé en 1944 aux opérations aéroportées menées en Bretagne pour ralentir les Allemands et permettre aux Alliés de débarquer en Normandie. Autant vous dire que le danger, l'adrénaline, il connaît. Mais de là à ressauter en parachute à 101 ans, ça semble déjà parfois si compliqué de vieillir en bonne santé. Bien évidemment, avant de réaliser son exploit, il a dû se préparer un minimum, puisque son dernier saut en parachute remontait à 1962 en Algérie. Mais une fois dans les airs, tous ses réflexes sont revenus. Il a partagé quelques mots avec son accompagnateur, un militaire du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, et le saut s'est parfaitement déroulé. Achille Müller a même pu diriger le parachute pendant la descente. Lui, qui avait obtenu son brevet de parachutiste en 1943, a quand même reconnu que les voiles qu'il devait orienter à son époque étaient beaucoup plus compliquées à manœuvrer. Quelques instants après l'atterrissage, en recoiffant son béret rouge, le vétéran a décrit le moment comme « excellent » et a affirmé être prêt à recommencer, en précisant vouloir le faire seul la prochaine fois. On ne l'arrête plus. Et tant mieux, il est le dernier Special Air Service de la France libre encore en vie, donc gardons-le encore longtemps. Alors, à part bien sûr trouver ça extraordinaire, mignon ou inconscient, que nous prouve cette histoire ? Eh bien que comme Achille Müller, il faut croire en ses rêves, parce qu'il paraît que les rêves éloignent les pensées limitantes, entretiennent notre positivité au quotidien. Ils sont également moteurs de changement et nous aident à mieux nous comprendre et enfin, ils peuvent être une grande source d'inspiration pour les autres. Alors bien sûr, y croire ne veut pas dire qu'ils se réaliseront tous. Mais rien que d'être dans la démarche de rêver peut nous rendre heureux et nous permettre de dépasser plus facilement les épreuves de la vie. Donc le seul conseil qu'on peut se donner ce soir, c'est tous et toutes à nos rêves. Si Achille Müller réussit encore à rêver à 101 ans après avoir traversé des guerres, aucune raison que nous n'arrivions pas à trouver même un micro-espace en nous pour en faire autant. Et ce soir, dans notre matinale, nous n'allons pas faire que rêver, mais aussi discuter de choses très concrètes et réelles. Nous parlerons science avec les fondateurs du festival Double Science qui aura lieu ce week-end à Paris. Romain nous apportera les dernières nouvelles du monde. Sybille nous éclairera sur l'affaire Liana. Et Anna nous replongera dans l'Odyssée d'Homère. Mais tout de suite, c'est l'heure de notre grand entretien.
La matinale de 19h. 93.9 FM.
Et ce soir, pour parler désinformation et influence sur l'opinion publique en Russie, nous avons le plaisir de recevoir Françoise Dossé. Françoise, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue du politique, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du Centre d'études russes, caucasiennes, est-européennes et centra-asiatiques, et vous êtes également membre du conseil d'administration de Mémorial France. Vos recherches portent sur la transformation des pratiques de pouvoir et d'autorité dans des sociétés libéralisées à partir du cas de la Russie contemporaine. Et ce soir, pour nous aider à y voir plus clair dans toutes ces pratiques portées par le gouvernement de Vladimir Poutine, c'est Félix qui sera notre guide. Félix, bonsoir.
Bonsoir. L'Arménie se dirigera-t-elle vers ce que Vladimir Poutine a qualifié de, je cite, un scénario ukrainien ? Quelques jours avant des législatives présentées comme cruciales, il a affirmé, je cite, « Il ne faut pas pousser les choses à l'extrême ni suivre la voie de l'Ukraine ». Tout cela a ensuite mené au coup d'État, aux événements en Crimée et au déclenchement des hostilités. Le destin de l'Arménie est-il scellé ? Nicole Pachignan et son parti Contrat Civil ont remporté les élections législatives du 7 juin dernier dans un climat d'ingérence informationnelle sans précédent. Depuis octobre 2025, selon le collectif Antibot for Navalny, au moins 435 opérations d'ingérence russe ont été repérées, notamment par exemple des publications falsifiées usurpant l'identité de médias réputés comme France 24. Françoise Dossé, bonsoir. Finalement, est-ce que ces législatives en Arménie ont mis au jour cette stratégie d'influence ? Est-ce que ce cas révèle une stratégie nouvelle ou au contraire une stratégie récurrente qui s'est institutionnalisée au fil des années ?
Oui, ce à quoi on assiste en fait depuis de nombreuses années, hein, c'est la tentative de la Russie de restaurer son espace d'influence au-delà de ses frontières, dans l'espace qui fut autrefois soviétique. Et c'est quelque chose que, voilà, qu'on a observé déjà depuis de longues années. Si on se souvient en 2008, par exemple, de la guerre de la Russie en Géorgie, ensuite l'annexion de la Crimée en 2014, puis l'agression massive de l'Ukraine en 2022. Donc on voit bien cet esprit impérialiste qui influence, hein, la politique russe à l'égard de ses voisins. On a vu aussi ces dernières années, l'année dernière, les élections en Géorgie, où la Russie a réussi en fait à imposer son candidat qui a gagné les élections. Et on voit le tour pro-russe aussi qui s'est imposé en Géorgie suite à ces résultats électoraux. Donc ce qui se jouait en Arménie là ce dimanche pour les élections, c'était bien cette question de l'influence russe. Et on voit que la Russie a effectivement essayé d'influencer le résultat du scrutin, mais manifestement sans y parvenir. Ce qui est à noter et ce qui est important évidemment pour l'avenir de l'Arménie.
Et justement, finalement, ces grandes opérations de désinformation massive, on lit dans des publications, on parle par exemple des opérations Matryoshka, des opérations Storm 1516, ou même par exemple de l'opération que l'on a nommée Doppelganger, qui a débuté lors de la guerre du Donbass, si je ne me trompe pas. Mais finalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, et d'abord la question c'est peut-être, a-t-on des informations concrètes sur comment ces réseaux fonctionnent, qui les pilote, qui les finance ?
Alors, la propagande russe n'est pas quelque chose de nouveau, hein, et les tentatives d'influence informationnelle de l'Union soviétique dans le monde de la guerre froide, par exemple, ont été très bien documentées. Donc, ce n'est pas quelque chose d'entièrement nouveau. Il y a une forme de savoir-faire, hein, qui demeure à Moscou en la matière. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est le développement d'Internet et tout ce que ça offre, en fait, de ressources pour exercer cette influence. Et en fait, en Russie, à partir des années 2000, on a vu ce qu'on appelle des hackers, hein, ou des ingénieurs russes ou des experts russes du numérique qui se sont emparés de toutes les fonctionnalités d'Internet pour essayer justement de diffuser des narratifs favorables à la Russie ou pour essayer de susciter le trouble ou désorganiser un certain nombre de sociétés. Et donc ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. On connaît l'usine Troll qui avait été fondée à Saint-Pétersbourg et qui produisait de la désinformation sur les réseaux sociaux à de grande ampleur. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une capacité à créer des faux comptes, des faux sites internet, des fausses informations qui sont très maîtrisées par un certain nombre de services liés en fait au FSB, hein, au service de sécurité russe en Russie. Et qui voilà essaye d'empoisonner au fond les réseaux sociaux et Internet. Et en fait, comme vous le savez, plus on publie de contenus du même type sur Internet, plus ils vont monter dans les algorithmes et plus ils vont être recommandés. Et donc en fait, ils essayent de multiplier les publications pour nourrir les algorithmes et pour faire surgir un peu ces fausses informations. Donc ce sont des systèmes assez sophistiqués qui utilisent beaucoup les réseaux numériques.
Et justement, vous êtes vraiment intéressé finalement à cette société libéralisée et connectée qui est devenue la société russe, mais qui emprunterait finalement au passé soviétique tout un tas de techniques, notamment les techniques de désinformation. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur l'historicité justement de la désinformation dans l'espace soviétique et même l'historicité du mot désinformation? Parce que alors il y a tout un tas de théories qui disent que finalement il est issu du mot russe désinformatia qui aurait été utilisé par l'Union soviétique pour dénoncer les tentatives du bloc occidental justement donc c'est un espèce de revers de la médaille maintenant que nous le monde occidental enfin nous en tout cas le monde occidental l'utilise. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu justement sur l'utilisation de ce terme?
Alors, à la période soviétique, on parlait beaucoup aussi de propagande, aussi effectivement d'opérations de désinformation. Et au fond, on a eu l'impression, en 91, au moment où l'Union soviétique a disparu, que tout ce vocabulaire de la guerre froide allait disparaître au profit d'un autre vocabulaire à l'époque, qui était celui de la glasnost, de la transparence, et puis de l'amitié de la maison commune européenne, etc. Donc, on avait l'impression que tout ce vocabulaire de l'ingérence qui venait de la guerre froide allait disparaître. Or, en fait, on l'a vu revenir alors, à la fin des années 90, au début des années 2000, avec le retour au pouvoir de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine lui-même, qui vient des services de sécurité russes, donc qui connaît parfaitement cette culture de la désinformation et de la propagande. Et on a vu se renforcer en fait ces activités tout au long des années 2000-2010. Voilà, alors sur le terme lui-même, c'est effectivement un terme qui est très largement utilisé, mais qui est employé de façon très différente par les uns et par les autres, donc et pour se discréditer mutuellement. Dans le cas de la Russie, cette idée... Et dans le monde contemporain aussi, ça s'accompagne aussi de cette idée de la diffusion de fausses nouvelles, des fameuses fake news, qui seraient ces contenus néfastes, hein, qu'essaye de faire circuler la Russie. Donc c'est une question effectivement assez ancienne en fait.
Et est-ce que finalement l'invasion de l'Ukraine en 2022, a-t-on observé un véritable tournant, une professionnalisation finalement des entreprises de désinformation? On l'a vu hein, avec par exemple l'idée que tous les Ukrainiens seraient des nazis, que l'Ukraine et la Russie seraient des peuples frères. Est-ce qu'on a assisté avec cette invasion à grande échelle à un véritable tournant dans la politique russe?
Alors je dirais que le tournant il date plutôt de 2014 en fait et de l'annexion de la Crimée. Donc vous vous souvenez dans quelles conditions, hein, après la révolution de l'Euromaïdan à Kiev, comment la Russie en fait est intervenue en Ukraine pour reprendre la Crimée et a lancé la guerre en Donbass. Et c'est là qu'en fait, des narratifs anti-ukrainiens se sont mis en place pour justifier cette annexion de façon extrêmement active. Alors, il faut peut-être rappeler aussi quand même que la Russie a longtemps disposé, notamment en Ukraine et dans tout l'espace anciennement soviétique, de ses propres plateformes en fait, numériques. Et donc, je pense notamment à une plateforme qui s'appelle Vkontakte, qui est l'équivalent de Facebook, mais qui est un genre de Facebook russe, et une autre grande entreprise de la tech russe qui s'appelle Yandex, qui est un grand moteur de recherche et qui est aussi qui recommande des contenus, et notamment des contenus d'actualité. Et donc, en 2014, hein, on a vu comment la Russie utilisait Vkontakte et Yandex pour justement diffuser ses narratifs en russe, notamment en Ukraine, mais aussi en Moldavie, en Géorgie, etc. Ce qui a conduit en 2017, en fait, l'Ukraine à prendre la décision de bloquer Vkontakte sur son territoire pour essayer de mettre fin justement à ces flux ininterrompus de contenu pour essayer de déstabiliser la situation en Ukraine. Donc, ils ont bloqué en fait Vkontakte en Ukraine. Et donc, à partir de ce moment-là, on a vu la Russie aussi utiliser les réseaux sociaux internationaux, Facebook, Instagram, maintenant TikTok, hein, pour essayer de faire circuler ses propres contenus. Et puis, il faut peut-être évoquer aussi une application très populaire qui est Telegram, qui est cette application qui a été créée par Pavel Durov et dont on ne sait pas très bien quel est le rôle, qui est assez ambigu dans son rôle aux autorités russes, mais en tout cas qui est très populaire en Ukraine comme en Russie, et sur lequel circulent à la fois des contenus de propagande et aussi des contenus très critiques, des contenus très indépendants. Donc Telegram joue un grand rôle dans la région.
Il n'y a pas eu un blocage de Telegram ?
Alors, la Russie a essayé de bloquer Telegram en 2018. Et a échoué à l'époque. En 2018, ils ont échoué à bloquer Telegram, ce qui a donné à Telegram une forme de renommée de site d'opposition, en fait, parce que la Russie, le gouvernement russe avait échoué à bloquer Telegram. Et en fait, là, la Russie, très récemment, est à nouveau effectivement engagée dans des opérations de blocage de Telegram, et là, avec beaucoup plus de succès, parce que leurs compétences techniques se sont développées. Et effectivement, là, Telegram est presque entièrement bloqué en Russie. Mais les internautes russes savent très bien utiliser les VPN pour contourner les blocages. Donc il y a ce jeu du chat et de la souris. On bloque d'un côté, on essaye de contourner de l'autre. Mais on voit quand même l'espace des libertés numériques se réduire très très nettement en Russie.
Mais justement, en parlant de cet espace numérique qui est en train de se réduire de plus en plus en Russie, il y a depuis quelques semaines une petite musique monte d'une fermeture de l'accès d'Internet pour les Russes, enfin par le gouvernement russe. Qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Est-ce que justement le pouvoir russe va réussir à bloquer finalement Internet dans le pays ?
Alors, l'État russe contrôle depuis longtemps Internet hein, et surveille beaucoup, bloque des contenus, etc. Mais jusqu'à présent, l'objectif de l'État russe, c'était plutôt de faire comme si tout était normal. C'est-à-dire que ces blocages et ces contrôles et ces surveillances soient, d'une certaine façon, peu visibles par les internautes. Or là, ce qui se passe depuis un an, depuis mai 2025, c'est que l'État russe coupe très massivement l'Internet mobile. Alors, ce n'est pas permanent. Par moment, il coupe, par moment, il rétablit l'internet mobile. Ça varie aussi suivant les régions. Et ce serait lié en fait aux attaques de drones ukrainiens qui utilisent le réseau mobile pour guider les drones et donc conduisant les autorités à couper l'internet mobile. Mais ça veut dire très concrètement que les citoyens russes se retrouvent avec des téléphones qui ne sont plus, des smartphones tout simplement qui ne fonctionnent plus ou n'ont plus toutes leurs applications quotidiennes pour se déplacer en ville, pour faire des achats. Parce qu'en fait, la société russe est une société très connecté et c'est très commun en fait de payer avec son téléphone dans les magasins. Donc voilà, tout ça dysfonctionne et là ça commence à susciter une beaucoup plus grande inquiétude et du mécontentement dans la société.
Si ça vous va, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes et on va écouter tout de suite Crystal, Thanks for Crying. Et comme tout ce mois des fiertés, c'est une musique queer, dite queer. Voilà, donc on écoute tout de suite. Toujours dans la matinale de 19h, c'était Thanks for Crying de Crystal.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et nous poursuivons notre grande interview avec Félix qui reçoit Françoise Dossé.
Justement, vous parliez, Madame Dossé, de ce mécontentement au sein de la population russe qui commence à gronder, notamment vis-à-vis des coupures d'Internet, de l'Internet mobile de plus en plus fréquentes. Est-ce qu'il y aurait finalement la rupture d'un contrat qu'on a souvent présenté comme tacite entre les autorités russes et la population russe, qui consisterait à dire, voilà, vous pouvez diriger le pays comme bon vous semble, mais par contre, ne touchez pas à notre quotidien.
Effectivement, depuis 2022, au fond, le refus même d'utiliser le mot de guerre, hein, puisqu'on parle en Russie d'opération militaire spéciale, on n'a pas le droit d'utiliser le mot guerre, c'est une façon, au fond, d'euphémiser la situation, de faire comme s'il n'y avait pas de guerre. Et c'est un peu ça le contrat. L'État fait la guerre en Ukraine, mais la société continue sa vie de façon plus ou moins normale, sans trop se préoccuper du conflit militaire. Et c'était vrai surtout pour les grandes villes du pays, pour Moscou et Saint-Pétersbourg, hein, parce qu'on sait qu'en fait, dans les provinces russes, sont les régions les plus démunies qui payent actuellement le coût le plus élevé sur le front. Donc il y avait ce contrat tacite qui commence à être rompu de diverses manières. D'une part, en raison effectivement des coupures d'Internet qui montrent que la guerre est bien là et que les attaques de drones ont des effets. Attaques de drones qui touchent aussi des objectifs, hein, notamment les raffineries, un certain nombre d'entreprises. Et donc la population commence à voir la guerre arriver sur le territoire russe. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la dégradation de la situation économique, hein, quand même, avec une inflation assez forte, des difficultés, des taux d'endettement qui sont assez élevés dans la population. Donc une dégradation du niveau de vie. Et tout cela crée du mécontentement et puis aussi des difficultés régionales, une marée noire en mer Noire justement. Enfin voilà, donc un certain nombre de difficultés qui suscitent du mécontentement. La difficulté, c'est que ce mécontentement n'est pas nécessairement connecté au problème de la guerre, disons. C'est-à-dire qu'il y a un mécontentement un petit peu rampant dans le pays, mais qui ne conduit pas nécessairement à une remise en cause de l'agression militaire de l'Ukraine et qui parfois épargne même Vladimir Poutine. C'est-à-dire que la critique porte beaucoup contre les fonctionnaires intermédiaires qui ne feraient pas bien leur travail, qui n'informeraient pas bien le président. Mais la figure de Vladimir Poutine elle-même est parfois, enfin, relativement épargnée. Hein. Alors même si son taux de popularité baisse un tout petit peu dans le pays, de toute façon, ces taux de popularité sont difficiles à mesurer puisque tous les chiffres sont fabriqués.
Mais là, il a quand même beaucoup resserré sa sécurité. Tout ça, non,
voilà, donc manifestement, voilà. Donc il est beaucoup plus attentif à sa sécurité. Et ce que disent ceux qui connaissent, enfin qui ont des sources à l'intérieur du pays, c'est que à nouveau, le service fédéral de sécurité, le FSB, est de plus en plus influent au sommet de l'État russe.
Mais si la résistance en ligne, la résistance numérique a été progressivement étouffée par l'État russe, est-ce qu'il reste encore des espaces numérique en Russie, où finalement les citoyens peuvent s'informer, ou en tout cas peuvent peuvent aussi bénéficier d'informations qui soient vérifiées et trouver aussi un usage émancipateur à ce qu'il reste finalement de l'espace numérique en Russie.
Alors en fait, ce qui s'est passé en 2022, donc effectivement, les contrôles sur l'Internet en Russie se sont énormément renforcés, hein, et les contrôles sur la télévision, sur la presse écrite, se sont beaucoup, beaucoup renforcés. Et beaucoup de journalistes russes indépendants et critiques du pouvoir qui étaient en Russie ont été obligés de partir à l'étranger. Donc en fait, il y a des grandes rédactions de médias russes qui sont actuellement, notamment en Europe, donc je pense à des journaux comme Novaya Gazeta, un journal qui s'appelle Medusa, voilà, il y a des grandes rédactions qui sont en Europe, et qui continue à produire des contenus indépendants en russe pour notamment un auditoire situé en Russie. Et en fait, ces médias font un travail énorme pour populariser l'usage des VPN et pour apprendre à leurs auditeurs à utiliser les VPN pour accéder à leur contenu. Et en fait, ce qui est assez intéressant, ce qu'on constate, en fait, c'est que lors des blocages et des blocages d'Internet en Russie. En fait, les personnes qui consultent ces contenus-là sont beaucoup plus équipées pour accéder à ces contenus interdits que ceux qui consomment, disons, de la culture grand public, enfin, vous voyez, qui sont pas très politisés et qui en fait, utilisent l'Internet pour télécharger de la musique ou regarder des films. Ceux-là n'ont pas encore vraiment les outils pour accéder à l'Internet libre, alors que ceux qui lisent ces contenus interdits apprennent à utiliser notamment les VPN.
Et est-ce que vous croyez peut-être à la construction d'un Internet russe souverain ? On a souvent parlé d'un Runet, donc un réseau Internet qui serait complètement créé par la Russie, pour la Russie. Est-ce que vous pensez que finalement toutes ces coupures d'accès à l'Internet mobile mènent vers la création de ce Runet qui est entouré, je pense, aussi de beaucoup de fantasmes ?
Tout à fait. Alors en fait, quand on étudie Internet, souvent on décrit Internet comme une structure en couches, avec des couches basses qui sont la couche des câbles, des serveurs, etc. Et cette couche des câbles, elle continue à fonctionner en Russie, hein, parce qu'en fait c'est comme ça que le réseau russe est construit et qu'il est rattaché à l'Internet mondial. Donc au niveau de la couche basse, les câbles ne sont pas coupés. Par contre, au niveau de la couche des infrastructures, en fait, de l'accès à Internet, ceux qui jouent un rôle déterminant pour le contrôle du réseau numérique, ce sont les fournisseurs d'accès à Internet, c'est-à-dire ceux qui fournissent la connectivité aux citoyens. Et donc, il y a quelques grands fournisseurs d'accès qui seraient l'équivalent de SFR ou Feu SFR, de Free, etc. Enfin, bon, des fournisseurs d'accès à Internet. Et c'est eux, en fait, qui sont chargés de mettre en place les coupures d'Internet ou de filtrer les contenus. Et donc, c'est eux qui jouent ce rôle, en fait, de régulation des contenus sur Internet et qui ont le pouvoir de bloquer ou de débloquer les contenus. Donc, en fait, au niveau, les infrastructures sont là et elles fonctionnent. Ce qui va être bloqué, ce sont les couches hautes, donc la couche des contenus et la couche des plateformes, avec l'idée de bloquer Telegram, d'interdire en Russie Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Donc on voit bien que suivant les différentes couches, en fait, les niveaux de blocage sont différents et sont gérés différemment par les autorités russes.
Et quelle marge de manœuvre pour les pays occidentaux, par exemple comme la France, on entend parler depuis quelques temps de Xenia Fedorova, l'ancienne directrice de RT France, qui a été interdite, donc je crois, lors de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, qui officie sur une chaîne dans laquelle je ne vous conseille pas de vous informer, mais tout de même, cette chaîne existe, Xenia Fedorova existe. Et voilà, elle est souvent qualifiée comme finalement la voix du Kremlin ici en France. Mais ça pose quand même un problème parce qu'on ne peut pas finalement... contrairement en Russie, ici il y a une liberté d'expression, comment lutter finalement contre ces discours qui sont véritablement de la désinformation, mais comment qualifier un discours de légitime ou pas, quelle pourrait être notre marge d'action, nous ici ?
Là, vous ouvrez un débat extrêmement compliqué qui a surgi en 2022, en fait. Et notamment face à cette chaîne qui s'appelait Russia Today, qui ensuite a été rebaptisée RT, et qui est une chaîne là, sous le contrôle total de l'État russe, et qui avait pour particularité d'émettre dans de très nombreuses langues. Donc, il publiait des contenus en anglais, en français, en arabe, en espagnol, etc. Extrêmement puissant au niveau international pour diffuser, alors pas tant les narratifs du Kremlin que pour reprendre en fait les tensions dans les sociétés où ils étaient présents, pour les aggraver ou les accentuer, et souvent quand même avec un angle journalistique très orienté vers des forces situées, disons, plutôt à l'extrême droite, très clairement, hein, donc avec une espèce de relais quand même d'un certain nombre de forces d'extrême droite. Et donc en 2022, s'est posé la question au niveau de l'Union européenne de savoir que faire face à cette chaîne RT, et la décision a été prise par l'Union européenne de bloquer RT. Alors le problème, c'est que ce blocage produit des effets, en fait, de certes RT est bloqué, mais un certain nombre de ces journalistes ou des contenus publiés se sont diffusés sur d'autres plateformes. Donc si vous regardez par exemple sur Telegram, vous avez des contenus produit par RT qui maintenant se balade de façon un peu fluide sur Telegram, et qui du coup sont beaucoup plus difficiles à à encadrer et à contrer, en fait. Donc, en fait, il y a cet effet de dissémination qui rend les choses presque plus compliquées. Et puis, il y a cette personnalité de Ksenia Fedorova qui, là, renvoie à des formes là, beaucoup plus classiques, en fait, d'influence à l'international qui véhicule, hein, c'est vrai, de façon très, très ouverte, des narratifs qui sont ceux du Kremlin, qui visent aussi à discréditer l'Ukraine, à délégitimer Volodymyr Zelensky. Donc, on voit bien que tout ça est très conforme au discours produit à Moscou. La question, effectivement, c'est comment réagir face à ces contenus ? Est-ce qu'il faut les interdire ? Comment y répondre ? Et est-ce qu'il y a en face, en fait, des médias suffisamment puissants pour porter un contre-discours et pour déconstruire ce discours-là ? Donc, c'est tout, en fait, un débat qui oppose d'un côté les partisans des blocages et de l'autre les partisans plutôt de l'éducation aux médias pour aussi apprendre, aux enfants dans les écoles, etc., à être capable d'identifier la nature des contenus produits, à être capable d'avoir un regard critique sur ces contenus.
Et encore juste une dernière question, voilà, 20 secondes, très rapidement, voilà. Parce que je tenais juste à évoquer l'ONG Mémorial, dont vous êtes membre du conseil d'administration, Mémorial France. Est-ce que vous pouvez présenter en 30 secondes l'ONG, qu'est-ce que vous faites et comment est-ce qu'on peut vous soutenir ici ?
Voilà, alors pour Mémorial France, d'abord n'hésitez pas à consulter notre site internet qui regorge d'informations sur nos activités, avec d'une part des activités de type historique pour rappeler la mémoire des victimes du stalinisme, donc ça c'est tout un pan de notre activité, et l'autre pan c'est la défense des droits humains en Russie, donc on fait beaucoup pour essayer de défendre encore les droits de l'homme en Russie et surtout de défendre les prisonniers politiques, en fait c'est ça l'un des grands enjeux pour Mémorial France aujourd'hui.
Merci beaucoup Françoise Dosset d'avoir été avec nous, vous reviendrez. Ça s'est bien passé.
Volontiers, volontiers.
Tant mieux, super. Vous restez avec nous encore un petit peu pour le Flash Info. Romain, c'est à toi.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonjour à tous. Le leader de la France insoumise et quadruple candidat à la magistrature suprême, Jean-Luc Mélenchon, a tenu dimanche en région parisienne son premier meeting de campagne. Parmi les points importants de son programme, la planification écologique, le SMIC qui passera à 1 700 € et une sécurité sociale intégrale gérée par ses cotisants. S'il remporte l'élection présidentielle, il renouvelle sa promesse, l'âge de départ à la retraite sera rétabli à 60 ans. Plus de 20 000 personnes se sont rassemblées pour assister à son meeting. Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président de la République Jacques Chirac, est décédée vendredi soir à l'âge de 93 ans. Elle aura été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique sur son nom propre, celui des conseillères générales de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015. Elle est devenue très populaire auprès des Français, notamment à la tête de l'opération Pièce jaune en faveur des enfants hospitalisés. Emmanuel Macron a salué Bernadette Chirac comme une grande dame de cœur qui a marqué le destin de millions de malades anonymes aussi, notamment à la tête de la Fondation des hôpitaux de Paris. Direction le Moyen-Orient. Les échanges de tirs ont repris entre Israël et l'Iran dimanche et lundi, après 2 mois de trêve plus ou moins respectés. Après 100 jours de guerre et 2 mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu déjà très fragilisé, la région menace de s'embraser une nouvelle fois, malgré les appels du président états-unien à la retenue adressée à Israël. Les négociations entre Washington et Téhéran n'ont depuis pas abouti et les deux pays se sont déjà attaqués mutuellement plusieurs fois ces derniers jours autour du détroit d'Hormuz, une guerre sans issue qui a causé de nombreux morts et qui fait vaciller l'économie mondiale. Accueilli par une foule immense à Madrid dimanche 7 juin, le pape Léon XIV a entamé sa visite en Espagne devant plus d'un million de fidèles. Entre célébrations, plats si belles et bains de foule, le souverain pontife poursuit un déplacement marqué par la ferveur populaire. Il abordera différents sujets, dont celui des abus sexuels, un sujet qui fait écho à l'actualité avec l'AYANA. Il devrait passer en France en septembre.
Merci beaucoup Romain et merci Félix pour cette interview. On se retrouve dans quelques instants, pardon, après une pause musicale. Power bottom is my star sign. To get fucked hard is my guideline. With us fuck in my horoscope. Come here baby.
hard line, sweating, checking, watching us grind. Central speed in my veins. Come here, baby. Let's power dance. Sexual orientation in a blender. Your fluid eyes, my gender. T14 golden letters in my agenda. What a banger. Slapping my ass like we're on holly. Dragging, stashing, dragging dreams. Tapes on my tits and bruise on my knees. Phlegm raging in my guts. Red marks over my butt. My V flow increases like the tides. You're on top, but I'm inside. You're my glitch, gender fuck bitch. Queering my ass with some bastard beats. Buddy stick to the sub, ah. Make love to the groove. Buddy riding a sub, ah. You know I'll give you a treat, yeah. Skin to skin with sublime moves. Subscribing to the TV rules. Maybe I'm a switch, maybe I'm a witch.
Vous êtes toujours sur la matinale de 19h et vous venez d'écouter Power Bottom de Power Bottom. Voilà.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, c'est l'heure du regard de Sybille sur l'actualité. Et Sybille, tu vas nous parler d'un sujet qui actuellement anime tous les débats, l'affaire Liana.
Et oui, bonjour à tous et à toutes, Liana, Florence, Jérôme, Barella. Cela fait plusieurs jours que ces mots retentissent dans les médias et donnent la sonnette d'alarme sur les lacunes du système judiciaire français. Cet après-midi, une minute de silence a été dédiée à trois victimes, dont Liana, en ouverture d'une séance de questions à l'Assemblée nationale. Hier, près de 200 manifestations ont été organisées un peu partout en France suite au décès de Liana, une jeune collégienne de 11 ans qui a disparu le 29 mai dernier dans la commune de Fleurance, dans le Gers, et dont le corps a été retrouvé jeudi 4 juin. Quelques chiffres sont accrochés à la bouche des manifestants. 73% des affaires de viol sur mineurs sont classées sans suite. Et une idée qui les réunit, remettre la parole des victimes au centre des procédures judiciaires. Parmi les reproches, on retrouve aussi ce fait aux magistrats, car dans l'affaire de Liana, le principal suspect, Jérôme Barella, avait été visé par au moins 4 procédures concernant des violences sexuelles sur mineurs avant les faits. 3 nouvelles plaintes ont par ailleurs été déposées depuis sa mise en examen le 1er juin pour enlèvement et séquestration. Mis sous pression, le gouvernement s'active dans la foulée. Hier, le garde des Sceaux, Gérard Darmanin, a adressé un circulaire aux procureurs généraux et procureurs de la République pour leur demander de passer en revue avant le 14 juillet 70 000 plaintes connues des parquets concernant des enfants victimes de crimes ou de délits. En parallèle, le Premier ministre Sébastien Lecornu qualifie cette affaire de véritable fait de société. Il réunit donc aujourd'hui 5 ministres pour évoquer de nouvelles mesures concrètes sur un projet de loi proposé le 27 mai dernier en faveur de la protection de l'enfance. Parmi celles-ci, on retrouve l'aggravation des peines en cas de viol sériel, la modification des règles de prescription, l'information des victimes tout au long de la procédure et la nécessité de motiver les décisions de classement sans suite concernant les crimes et délits sexuels. Cette proposition de loi intégrale s'étend également aux violences sexuelles faites aux femmes. Elle sera transmise dans les meilleurs délais au Conseil d'État, selon Sébastien Lecornu. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a appelé sur France Info ce matin à passer à la vitesse supérieure en plaidant pour une inscription rapide de cette loi à l'agenda parlementaire d'ici septembre. Par ailleurs, cette dernière a invité à ne pas mettre en accusation les juges, car ce serait une grave erreur, selon ses mots. Elle qualifie le problème de systématique. Rémy Coutin, procureur de la République d'Évreux, entendu ce matin sur Ici Normandie, déplore également un problème plus large. En réponse à la demande de Gérard Darmanin, il déclare que, rien que pour sa juridiction d'Évreux, il y a environ 2000 procédures concernant des enfants pour 14 magistrats. D'autant plus que, je cite, « on ne va pas faire que ça, le reste de l'activité pénale va continuer à fonctionner normalement ». Il rappelle également qu'en France, il y a 3 procureurs pour 100 000 habitants, quand la moyenne européenne est de 12 pour 100 000. Pour en savoir plus sur cette affaire, un rapport d'instruction sur d'éventuels dysfonctionnements de la justice dans l'affaire Liana a débuté le 3 juin et les premières conclusions de l'enquête administrative seront rendues publiques le 19 juin prochain. Comme mot de la fin, la Ligue des droits de l'homme dénonce via un communiqué les déclarations du ministre de l'Intérieur et de la Justice et du Président qui font porter le chapeau à l'institution judiciaire sans reconnaître le problème de fond, celui d'une justice sinistrée en manque de moyens financiers et humains.
Merci beaucoup Sybille et nous poursuivons tout de suite notre émission avec le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Nous sommes ravis de recevoir Terence Saulnier, cofondateur du festival Double Science qui aura lieu les 12 et 13 juin au Grand Contrôle à Paris dans le 12e. Et c'est toi Arthur qui va nous aider à mieux comprendre en quoi cela consiste.
Bonsoir Terence.
Bonsoir.
Le festival Double Science est consacré à la vulgarisation scientifique. Pourquoi un tel événement à Paris au 21e siècle ? À quel point avons-nous besoin de vulgarisation aujourd'hui ?
Alors c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, tout ce qui va être lié à la science, la connaissance, la recherche scientifique est souvent cloisé dans des lieux très précis que sont les laboratoires, les universités, etc. Et nous, l'idée, c'est de se dire, venez, on sort des universités, on sort des laboratoires et on va dans une sorte de lieu indépendant qui va être un tiers-lieu culturel, où du coup on va permettre à des gens qui ne se sentiraient pas forcément de rentrer dans des laboratoires ou des universités, de venir sur ce tiers-lieu culturel pour passer un bon moment, pour la programmation, pour la culture, et découvrir derrière peut-être des sciences et des connaissances.
Et à qui s'adresse ce festival, aussi bien en termes du public qu'en termes des professionnels qui pourraient y avoir accès ?
Parfait. En effet, il y a à la fois du grand public et des professionnels. Nous, l'idée, c'est de se dire qu'on va ouvrir ça au grand public. Alors, le grand public, c'est une manière très générale de dire qu'on va aussi bien avoir des choses pour les enfants, des choses pour les étudiants et étudiantes et les jeunes actifs, pour les familles aussi. L'idée, c'est vraiment de passer au festival et pouvoir avoir quelque chose à prendre, peu importe ce qu'on vient chercher là-bas, quoi.
Parce qu'il faut expliquer que le Grand Contrôle, c'est un espèce d'espace hyper large où on peut manger, on peut boire, et les familles s'y réunissent énormément le week-end. Donc je pense que c'est important que les enfants puissent faire des ateliers.
Exactement. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont au festival et nous font comme retour. Je suis venu pour une pizza et je suis reparti avec un festival de science, ce qui montre bien quelle est la dynamique des gens au Grand Contrôle, qui parfois ne s'attendent pas du tout à trouver de la science et en trouvent par chance, et du coup s'intéressent à un sujet alors qu'ils n'étaient même pas venus pour ça au départ.
Et quand on dit les sciences, on parle de quelle discipline exactement ? Quelle discipline vous voulez mettre en avant ? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre les sciences mathématiques, et les sciences humaines et sociales, et la culture et le divertissement ?
Alors nous, on met un point d'honneur à ne pas, à représenter toutes les sciences et toutes les thématiques, en tout cas scientifiques, au festival. Et même on parle de vulgarisation au sens large. Nous, l'idée, c'est de pas du tout cloisonner les choses. On n'a pas de thématique, on n'a pas de focus particulier. On a toutes les sciences et on est d'ailleurs très content d'avoir des sciences sociales, humaines et sociales, au festival, pour pouvoir sensibiliser les gens à ces disciplines qui sont parfois un peu invisibilisées, alors que déjà la science n'est pas très visible dans l'espace public.
Oui. Vous parliez de vulgarisateurs. Vous allez recevoir des personnalités comme la streameuse Mama Paprika, l'autrice Floriane Soulas. Un bon vulgarisateur doit-il être un savant ou un professeur obligatoirement, ou la curiosité est-elle l'unique prérequis ?
Alors là, il me faudrait 4 heures pour répondre. Mais
ça ne va pas être possible.
Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que, en effet, ce qui est le plus important, c'est les méthodes qu'on va utiliser. Peu importe si on a fait des années d'études et qu'on est dans un laboratoire ou qu'on découvre les sciences, ce qui est important, c'est la méthode qu'on utilise pour le faire. La vulgarisation scientifique, c'est une méthode. Et donc, tant qu'on a les bonnes pratiques, citer les sources, faire la différence entre des choses localisées ou des consensus, ça, c'est les méthodes de la vulgarisation. Et tant qu'on les suit, en fait, tout le monde peut se lancer dans la vulgarisation scientifique.
Et toi, d'ailleurs, Terence, ton parcours, juste rapidement, pour savoir d'où tu parles, en fait.
Ouais, moi je suis passé, j'ai fait 2 années dans un laboratoire de recherche. Donc, j'ai été ingénieur d'études. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, c'est sympa la recherche scientifique, mais en fait, je crois que je m'épanouis beaucoup plus à sortir de la recherche pour en parler à travers des documentaires, des festivals, etc. Et donc faire aujourd'hui ce qu'on fait.
Alors, il est important de préciser que l'événement, le Festival Double Science, est gratuit. Il se veut également inclusif, écologique et porteur de thématiques sociétales. On y tient par exemple lors de cette édition le procès du véganisme. Les sciences peuvent-elles se passer de politique ?
Alors nous, on pense que non. En fait, notre place, elle est profondément politique, dans le sens, alors au sens noble du terme, de la chose commune. On pense que la vulgarisation a une place ultra importante dans la société parce qu'elle permet de se battre pour l'information dans un contexte où on a besoin de démystifier, de débunker certaines choses, de combattre les fake news. Et la vulgarisation apporte une solution à cette crise actuelle de l'information.
Alors, parmi les activités proposées, je change de sujet, désolé, il y a un karaoké scientifique, je cite, et aussi un DJ set scientifique. Comment on concilie les deux éléments, la science et le karaoké et le DJ set ?
Ouais, parce que même moi, pour moi, là, c'est très flou. Hein.
Oui, j'ai pas compris non plus.
Alors, j'essaye je peux en parler un petit peu, mais sans trop spoiler, parce que l'intérêt, c'est aussi que vous veniez au festival.
Bien sûr.
Pour le karaoké, on va prendre des chansons connues que tout le monde connaît, et on va modifier un petit peu les paroles pour que dans les refrains qui vont être affichés en grand, c'est un karaoké géant, on va pouvoir raconter une histoire en utilisant les paroles de chansons connues. Je vous donne un exemple du karaoké d'une édition précédente où c'était pas dans la vallée de Dana, mais dans le labo de Dana. Et donc derrière, il y avait toute une narration autour du laboratoire. Et pour le DJ set, on va projeter derrière nous des visuels qui vont être connectés en direct avec un microscope. Donc on va danser en même temps que des petits microbes qu'on va voir en grand. Donc ça, c'est le côté aussi très cool du DJ set.
D'accord. Et également, il y a le concept presque phare de l'événement, c'est le Café des Sciences. Donc, si j'ai bien compris, c'est un talk show, discussion avec le public. Tout le monde peut venir et y poser n'importe quelle question, du coup ?
Oui, en fait, le Café des Sciences, il est même plus important que ça, parce que c'est une des associations fondatrices du festival. C'est une association qui réunit plein de gens qui partagent les sciences sur Internet de toutes les manières. Sur Instagram, Twitch, YouTube, etc. Et donc, l'idée du festival, c'est que ces gens-là qui existent sur Internet puissent venir dans la vraie vie pour rencontrer le public. Et donc, en effet, il y aura un côté un peu fast-food de science. On va avoir plein de thématiques différentes. On va pouvoir un peu piocher, picorer dedans comme une sorte d'apéro scientifique, quoi, sur scène.
Alors, tu parlais de fast-food. On entend parfois des discours comme quoi la vulgarisation dénature l'activité scientifique en minimisant la complexité de la chose. Qu'est-ce que tu répondrais à ce type de critique ?
Alors, nous, on se positionne comme étant... on imagine la vulgarisation comme étant une interface, un média entre cette recherche scientifique, cette science parfois un peu difficile d'accès. Et vu qu'on se place comme interface pour déjargoniser la science, pour la rendre plus accessible, nous, elle nous paraît évidemment ultra importante. Et parfois, ce qu'on aime bien faire avec les chercheurs et chercheuses qui jouent le jeu sur le festival, c'est de leur dire, en fait, venez, on oublie un peu ce côté un peu presque élitiste, de la recherche scientifique pour aller sur d'autres formats, d'autres échanges avec le public qui parfois va être beaucoup plus dans l'interaction que dans des conférences un peu descendantes et verticales. Donc, en fait, nous, on dit, venez jouer le jeu et on verra d'ailleurs après qu'est-ce que le public aura le plus apprécié. Quoi.
Et du coup, c'est le but du but, c'est quoi au final ? Parce que, ok, tu vulgarises, mais donc...
Nous, on a deux buts un peu différents sur le festival. À la fois pour le grand public, ça va être permettre d'être sensibilisé à des sujets, des thématiques ultra importantes autour des sciences sociales, des sciences de l'environnement, etc. Et pourquoi pas créer des vocations, parce qu'on va avoir des étudiants ou des jeunes publics qui vont être là sur le festival. Et ensuite, comme tu le disais, on a des publics professionnels qui, elles, vont avoir besoin de plutôt découvrir d'autres manières de partager les sciences, parce que ce sont parfois des personnes qui viennent d'institutions ou des manières très classiques, on va dire, de partager les sciences. Et au festival, qui est un vrai terrain d'expérimentation, ces publics professionnels-là vont pouvoir découvrir d'autres manières de parler des sciences, quoi.
D'accord. Y a-t-il une autre activité du festival dont tu tenais absolument à parler ?
Alors, je crois qu'on a parlé pas mal de la scène. Ce qui est bien au festival aussi, c'est qu'il y a pas mal de stands.
Oui,
donc, au-delà de la programmation sur scène, il y aura plein de stands découvertes avec des expériences, des rencontres avec les chercheurs et chercheuses. Et ça va être des moments où, du coup, toute la journée, vous allez pouvoir découvrir plein de disciplines différentes et plein de types de profils différents dans la recherche et dans la vulgarisation scientifique.
Eh bien, merci Terence Saulnier.
Merci beaucoup.
Tu es organisateur et fondateur du Festival Double Science dédié à la vulgarisation scientifique les 12 et 13 juin au Grand Contrôle à Paris 12e. Merci.
Eh bien, merci à tous les deux. On se retrouve samedi. Arthur, tu y seras ? Non ? Ah, tu veux pas t'engager ? Bon, ben, en attendant, on se fait une dernière petite pause musicale et on se retrouve dans 3 minutes.
Puisque là-bas, vous êtes ses amis. Asseyez-vous et parlez-moi de lui. Il voulait voyager du sud au nord, et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord. Parlez-moi de lui. Parlez-moi de lui. Parlez-moi de lui. Parlez-moi de lui. Est-il vrai qu'il habite sur le port? A-t-il toujours sur lui ma chaîne d'or? Sur les photos, il semble avoir changé. Il me paraît triste et fatigué. Parlez-moi de lui. N'a pas écrit. A-t-il enfin trouvé la foi, la liberté? Parlez-moi de lui. Comment va sa vie dans ce pays lointain? Est-il heureux enfin? Est-il vrai qu'il habite sur le port? A-t-il toujours sur lui ma chaîne d'or? Sur les photos, il semble avoir changé. Il me paraît triste et fatigué. S'il n'ose pas m'écrire ce qu'il en est, c'est qu'il gâche sa vie et qu'il le sait. A-t-il demandé de me parler? A-t-il besoin de moi à ses côtés? Parlez-moi de lui. A-t-il des ennuis? Comment est sa maison? Chante-t-il des chansons? Parlez-moi de lui. A-t-il des amis? Vous dites que le soir, il perd souvent l'espoir. Parlez-moi de lui.
Parlez-moi de lui. Je vous en supplie. Oh, parlez-moi de lui. Il est toute ma vie. Parlez-moi de lui. Parlez-moi de lui. Oh, parlez-moi de lui. Oh, parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi de lui. Parlez-moi de lui. Parlez-moi de lui. Parlez-moi de lui.
C'était Parlez-moi de lui de Gabriel Ajar et tout de suite c'est le moment de la chronique libre.
La matinale de 19h.
Et pour conclure cette belle émission, nous avons la chance d'avoir Anna qui va nous apporter une nouvelle vision sur cette épopée que nous pensons tous et toutes connaître, l'Odyssée.
Bonjour. Alors, j'ai toujours été intriguée par la phrase « L'histoire est écrite par les vainqueurs ». Durant mes années de licence en histoire, elle a fait remuer beaucoup de certitudes. Est-ce que ce qu'on m'apprend est la réalité ou simplement une version des faits qui correspond aux intérêts de ceux qui avaient le pouvoir de raconter l'histoire ? Une vision qui traverse les siècles jusqu'à arriver dans nos amphithéâtres. L'un des principaux vecteurs de cette transmission, c'est la traduction. Et une traduction, elle est par essence jamais neutre. Elle est le produit d'une époque, d'une culture, d'une personne. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler des vainqueurs qui écrivent l'histoire, mais des oppresseurs, ces hommes qui ont réécrit et traduit l'un des mythes fondateurs de notre civilisation, l'Odyssée. Alors on a bien critiqué les choix de casting, comme avec la sortie de l'adaptation de Christopher Nolan le 15 juillet 2026, le débat autour de l'œuvre d'Homère est revenu sur le devant de la scène. Alors on a bien critiqué ces choix de casting, comme avec Lupita Nyong'o dans le rôle d'Hélène. Et oui, cela a affolé les racistes, l'idée que la femme dont la beauté aurait déclenché la guerre de Troie puisse être interprétée par une femme noire. Même chose avec l'acteur Elliot Page, qui d'après les rumeurs devait jouer Achille. Cela aussi a déclenché une vague de réactions transphobes. Alors je rappelle, à ce moment-là, de l'histoire grecque, Achille n'est pas seulement l'homme costaud et brave qu'on imagine, il est aussi un personnage profondément marqué par la perte de son ami ou de son amant selon la traduction. Bref, pas forcément besoin d'un Brad Pitt. Elliot Page aurait parfaitement pu jouer le rôle. Et au final, il ne joue pas Achille, mais un membre de l'équipage d'Ulysse qui, spoiler, meurt en tombant d'un balcon après avoir un peu trop bu. Bref, moins glorieux. Mais au-delà du casting, une question bien plus fondamentale mérite d'être posée. Comment notre vision de l'Odyssée a déjà été biaisée avant même son adaptation au cinéma ? Eh bien, pendant près de 400 ans, plus de 60 hommes ont publié une traduction anglaise de l'Odyssée. Une seule femme l'a fait. Cette femme, c'est Emily Wilson. En 2017, elle devient la première femme à traduire intégralement l'Odyssée en anglais. Et soudain, les lecteurs découvrent ce qu'ils croyaient savoir du texte d'Homère. Eh bien, ce n'était peut-être pas exactement ce que Homère avait écrit. Dès les premiers mots, Wilson fait un choix révélateur. Homère décrit Ulysse comme « polytropos ». Pendant des siècles, les traducteurs ont choisi des termes comme « ingénieux » ou « versatile », des mots valorisants. Emily Wilson traduit simplement par « complexe ». Ulysse n'est plus simplement un héros admirable, il devient un personnage ambigu, capable du meilleur comme du pire. Mais c'est surtout dans la représentation des femmes que les écarts deviennent frappants. À son retour, Ulysse fait exécuter plusieurs femmes de sa maison qui ont eu des relations avec les prétendants occupant le palais. Pendant des siècles, les traductions ont parlé de « servante infidèle » ou de « domestique coupable ». Pourtant, le mot grec utilisé par Homère signifie clairement « esclave ». Ce détail change tout. Ces femmes n'étaient pas libres de leur choix. Elles étaient réduites en esclavage et soumises aux hommes qui occupaient la maison. Ce n'est plus l'histoire d'une juste punition, mais celle des femmes sans pouvoir exécutées par leurs propriétaires. Même chose pour Pénélope. Les traductions en scène insistent sur sa fidélité et sa patience. L'image parfaite de l'épouse modèle. Pourtant, Homère la décrit comme intelligente, prudente, stratège. Chez Wilson, Pénélope ne se contente pas d'attendre, elle manipule les prétendants, gagne ingénieusement du temps et teste Ulysse lorsqu'il revient. Alors attention, cela ne signifie pas qu'Emily Wilson détient la traduction parfaite. D'ailleurs, certains spécialistes lui reprochent de laisser transparaître sa propre sensibilité contemporaine et de s'éloigner parfois de certaines traditions de l'épopée homérique. Après tout, toute traduction est une interprétation. Traduire, c'est choisir. Et choisir, c'est forcément introduire un biais. Mais c'est ce qui rend son travail si intéressant. Car pendant des siècles, les biais masculins étaient la norme. Ils semblaient naturels. Emily Wilson n'a peut-être pas supprimé toute subjectivité. Personne ne le peut. En revanche, elle a rendu visible 4 siècles de filtres masculins que plus personne ne questionnait. Et c'est peut-être là la leçon la plus fascinante de cette histoire. Parfois, ce n'est pas le texte qui change, c'est notre regard sur lui. Et lorsqu'une nouvelle voix obtient enfin le droit de raconter l'histoire, on découvre que le personnage que l'on croyait connaître avait encore beaucoup de choses à nous dire.
Merci Anna d'avoir remis les bons points sur les i et les femmes à leur juste place, du coup.
Merci.
Et c'est déjà la fin de cette matinale de 19h. Un grand merci à nos invités Françoise Dossé et Terence Saulnier. Un merci également à toute l'équipe de la matinale, Félix et Arthur aux interviews, Romain au flash, Anna et Sybille aux chroniques, Marianne à la réalisation et Luna à la coordination. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio Campus. Si vous restez avec nous, c'est l'émission On se lève et on se casse qui vous attend. Et sinon, nous, on se retrouve demain à 19h pour une nouvelle matinale. En attendant, faites comme notre cher Achille Müller dont je vous parlais dans l'édito. Continuez de rêver en grand. Bonne soirée!